France Culture.
Le journal est signé Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. La paix à Gaza se joue peut-être ce soir à la Maison Blanche. Donald Trump reçoit Benjamin Netanyahou. Le président américain espère convaincre le premier ministre israélien d'accepter son plan pour mettre fin à la guerre. Mais les obstacles sont nombreux, nous expliquera dans un instant Franck Mathevon à Washington. La victoire du camp pro-européen en Moldavie, large vainqueur des élections législatives. Malgré les ingérences russes, la Moldavie qui est espère rejoindre au plus vite l'Union européenne pour éviter de retomber dans l'escarcelle de la Russie. Sébastien Lecornu, accusé d'avoir menti sur son diplôme universitaire, le SNAPEN, un syndicat de l'éducation nationale, porte plainte contre le Premier ministre qui n'aurait pas validé son master en droit public. Sébastien Lecornu porte plainte à son tour pour dénonciation calomnieuse. À peine relancés, déjà abandonnés, les trains de nuit Paris-Vienne et Paris-Berlin vont s'arrêter en décembre. L'État français n'a pas reconduit une subvention de 10 millions d'euros jugée nécessaire à l'exploitation de ces deux lignes. Benjamin Netanyahou est arrivé il y a une demi-heure environ à la Maison-Blanche pour sa quatrième visite à Donald Trump depuis le retour au pouvoir du président américain. Le premier ministre israélien dont l'armée est actuellement engagée dans une violente offensive terrestre sur la ville de Gaza. Donald Trump veut mettre fin à la guerre. C'est tout l'enjeu de la rencontre qui a lieu en ce moment dans le bureau ovale. Il veut arracher à Benjamin Netanyahou un accord pour un plan de paix qui prévoirait la libération des derniers otages du Hamas. Franck Mathevon, vous êtes notre correspondant à Washington. Le président américain affiche sa confiance, mais les obstacles avant un accord sur Gaza sont très nombreux.
D'abord, ce nouveau plan américain, le Hamas affirme ne pas l'avoir reçu. D'après Donald Trump, le mouvement palestinien est impliqué dans les discussions, mais rien ne le montre à ce stade, même si les échanges se poursuivent avec les médiateurs comme l'Égypte et le Qatar. Naturellement, l'accord du Hamas est essentiel pour la libération des otages et pour les modalités du retrait israélien de Gaza, deux points essentiels du plan. Ensuite, côté israélien, Benjamin Netanyahou reste très opposé à certains projets, notamment la feuille de route pour l'après-Hamas à Gaza. Des pays arabes et occidentaux seraient impliqués, mais aussi l'autorité palestinienne. Or, Netanyahou ne lui fait aucune confiance, il l'a dit vendredi à la tribune de l'ONU et encore hier sur Fox News.
Je n'ai pas changé d'avis. Je pense qu'il n'y a aucun espoir que l'autorité palestinienne se réforme, qu'elle change complètement ses habitudes, qu'elle accepte un État juif, qu'elle enseigne à ses enfants d'accepter la coexistence au lieu de vivre leur vie dans le but d'anéantir Israël, peut-être de commettre des attentats suicides. Tout ça, ce serait une transformation considérable. Bon courage. Certains y croient, moi je pense que ça n'arrivera pas.
Netanyahou demande aussi plus de garanties sur le désarmement du Hamas. Comment s'assurer que la bande de Gaza sera totalement démilitarisée après un cessez-le-feu ? En revanche, il pourrait accepter, contraint par Washington, de renoncer à l'annexion de la Cisjordanie. Dernier point auquel Benjamin Netanyahou est fermement opposé, la création d'un État palestinien. Mais la formule serait suffisamment vague dans le plan américain pour qu'elle convienne à Israël.
Franck Mathevon, correspondant aux États-Unis. En Israël, les familles d'otages veulent cet accord pour retrouver leurs proches au plus vite. Selon l'armée israélienne, 47 personnes sont toujours retenues à Gaza par le Hamas, mais seuls 20 otages seraient encore vivants. Vicky Cohen est la mère de l'un d'eux, Nimrod Cohen, prisonnier de la milice islamiste depuis 724 jours.
We are waiting to see what will be the meeting with the Prime Minister and President Trump. We hope.
On attend de voir ce que va donner la rencontre entre Donald Trump et le Premier ministre. On espère que le président va obliger notre Premier ministre à arrêter la guerre, à accepter et signer un accord pour ramener Nimrod et les 47 autres otages à la maison. Le temps est peut-être venu que notre gouvernement valide cet accord. La décision est entre les mains de notre Premier ministre et il doit décider. Soit il écoute ce que lui dit Trump, soit il suit ce que lui disent les membres les plus extrêmes de sa coalition.
Le témoignage de Vicky Cohen, mère d'un otage du Hamas, elle était au micro de notre correspondant à Jérusalem, Thibault Lefèvre. L'Union européenne respire ce soir après la large victoire du parti pro-européen PAS en Moldavie. La formation de la présidente moldave Maia Sandu a recueilli plus de 50% des voix. Elle conserve la majorité absolue au Parlement de Chișinău, la capitale. Coincée entre la Roumanie et l'Ukraine, la Moldavie a entamé le processus d'adhésion à l'UE, mais la Russie n'a pas renoncé à ramener cette ancienne république soviétique et dans son giron, d'où une campagne électorale émaillée d'attaques hybride orchestrée par Moscou. L'opération a échoué, les partis pro-russes moldaves sont largement minoritaires, mais la route vers l'Union européenne est encore longue pour ce petit pays de 2,5 millions d'habitants, Virginie Pironon.
C'était la principale crainte chez les partisans de l'Europe à Chișinău, que le travail de ces 15 dernières années soit balayé d'un revers de main par Moscou. La Moldavie a obtenu le statut de pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne dans la foulée du début de l'agression russe en Ukraine en juin 2022. Et depuis, beaucoup a été fait en matière de réformes socio-économiques. C'est ce qu'explique Iulian Groza, ancien vice-ministre des Affaires étrangères de Moldavie, responsable de l'intégration européenne.
Ces 15 dernières années d'intégration économique à l'Union européenne nous ont aidés à changer le visage de ce pays. Oui, nous ne sommes pas encore là où on voudrait, parce qu'on a toujours des problèmes de corruption, d'efficacité de nos institutions. Mais ce que nous avons appris ces trois dernières années, alors que nous avons la guerre à proximité et beaucoup d'autres crises, c'est que si on reste concentré sur les objectifs et si on travaille ensemble, c'est bénéfique pour tout le monde.
Infrastructures routières, énergétiques, la Moldavie est devenue ces dernières années la vitrine des bénéfices de l'intégration européenne dans la région. Le plan de croissance européen pour le pays est d'€1,9 milliard. Avec toutes les difficultés qui se sont succédées, Covid, guerre en Ukraine qui a provoqué une crise énergétique dans le pays, d'autres n'auraient pas mieux fait, confie un diplomate en poste à Chișinău. La Moldavie, qui était auparavant dépendante du gaz russe pour son électricité, a su par exemple s'en défaire, même s'il lui reste encore un long chemin en matière de justice et de corruption.
Virginie Pironon de la rédaction internationale de Radio France. À propos d'ingérence russe supposée, la Serbie annonce aujourd'hui l'arrestation de 11 personnes soupçonnées d'avoir mené des opérations incitant à la haine en France et en Allemagne. Parmi ces opérations, il y a ces 9 têtes de cochon déposées devant des mosquées à Paris, en région parisienne, début septembre. Les 11 individus arrêtés seraient de simples exécutants. Le donneur d'ordre, un ressortissant serbe, est actuellement en fuite. Il aurait agi pour le compte d'un service de renseignement étranger. Voilà ce qu'indique ce soir le ministère serbe de l'Intérieur, sans pour autant mentionner la Russie. Le journaliste ukrainien Maxim Boutkevitch est le nouveau lauréat du prix Václav Havel, décerné par le Conseil de l'Europe, un prix prestigieux du nom de l'ancien dissident et président tchèque qui récompense une personnalité européenne engagée pour la démocratie et les droits de l'homme. C'est la mission du Conseil de l'Europe qui regroupe 46 pays et qui a exclu la Russie en 2022, immédiatement après l'invasion de l'Ukraine. Le journaliste distingué aujourd'hui, Maxim Boutkevitch, a passé plus de 2 ans dans les prisons russes. Il s'est exprimé devant le Conseil de l'Europe qui siège à Strasbourg, où l'on retrouve Fabien Cazot.
Pacifiste depuis toujours, Maxim Boutkevitch avait fini par se résoudre à prendre les armes dès le début de la guerre en Ukraine en 2022 pour défendre son pays. Devenu rapidement chef d'unité, il est capturé quelques mois plus tard sur le front du Donbass. Il ne doit son salut qu'à un échange de prisonniers intervenu entre l'Ukraine et la Russie en octobre 2024.
Il y a un an, j'étais détenu dans une colonie pénitentiaire en territoire ukrainien occupé par la Russie, condamné à 13 ans de prison par un soi-disant tribunal russe. À ce moment-là, la simple idée de me tenir face à vous, au Conseil de l'Europe, pour recevoir ce prix et vous parler, ne pouvait relever que du rêve.
Sur son t-shirt noir, un message écrit en blanc à l'intention des prisonniers de guerre ukrainiens. Nous ne vous oublions pas. Les applaudissements du Conseil de l'Europe leur sont aussi destinés.
J'ose dire que je ne reçois pas ce prix seulement pour mes mérites personnels, mais au nom de tous les prisonniers de guerre ukrainiens et des civils illégalement détenus par la Russie.
Journaliste dans le civil, Maxim Boutkevitch a notamment fondé une radio indépendante, Gromadske Radio, qui émet jusque dans le Donbass occupé, mais aussi en ligne sur son site internet qui a lancé en mars dernier un appel aux dons.
Fabien Cazot depuis l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Sébastien Lecornu a-t-il menti sur son diplôme universitaire? Le SNAPEN, le syndicat national des agents publics de l'éducation nationale, en est convaincu. Il porte plainte contre le Premier ministre, accusé de se prévaloir d'un diplôme qu'il n'aurait pas, en l'occurrence un master de droit public. Sébastien Lecornu balaye ses accusations révélées par Mediapart. Il porte plainte contre le SNAPEN pour dénonciation calomnieuse. Dans une interview au Parisien vendredi, le Premier ministre affirme qu'il a validé une maîtrise en droit et donc un master 1 à l'université Panthéon Assas. Anne Fauquemberg, bonsoir.
Bonsoir.
Le problème justement, Anne, c'est qu'un master 1 n'est pas suffisant aujourd'hui pour décrocher un master.
Oui, depuis la réforme dite LMD pour licence master doctorat, réforme qui date du début des années 2000, le niveau Bac plus 4 qui correspondait à la maîtrise dans l'ancien système ne permet pas de valider un master diplôme qui s'obtient donc désormais en 2 ans à niveau Bac plus 5. Or, sur ses portraits officiels depuis 2016, Sébastien Lecornu disait qu'il était titulaire d'un master de droit public alors qu'il n'avait pas validé sa 2e année de master. Pour Gérard Lenfant, le président national du syndicat national des agents publics de l'éducation nationale, c'est un délit et cette usurpation de titre doit être condamnée.
Aujourd'hui, un fonctionnaire qui a un concours alors qu'il n'a pas le diplôme qu'il faut avoir, non seulement on lui retire le concours, mais en plus, on peut aussi lui retirer les salaires qui ont été versés entre-temps. Comme quoi, il y a 2 poids 2 mesures. Donc moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est qu'il ait tenté le coup, qu'il se soit fait attraper et que ça passe comme une lettre à la poste. Je trouve que c'est un peu comme si on éditait de la fausse monnaie. Autant la fausse monnaie dévalue la vraie monnaie, autant les faux diplômes comme cela peuvent aussi dévaluer les vrais diplômes. Donc on ne pouvait pas laisser passer cette action-là sans porter plainte comme nous venons de le faire. Hein.
Sur le site officiel du gouvernement, Sébastien Lecornu écrit désormais « Études de droit à l'université de Panthéon Assas », sans plus de précision. Mais le Premier ministre a donc contesté l'accusation dont il fait l'objet et il a annoncé porter plainte contre le syndicat national des agents publics de l'éducation nationale. Notez, Stanislas, que l'usurpation de titres et de fonctions peut être punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Anne Fauquemberg, merci. Sébastien Lecornu, dont on attend toujours le gouvernement, avant la reprise des travaux parlementaires, avait dit le Premier ministre dans son interview au Parisien, soit avant lundi prochain 6 octobre. D'ici là, le locataire de Matignon affrontera jeudi une nouvelle journée nationale d'action intersyndicale et vendredi, il recevra les leaders de l'opposition, notamment le chef du Parti Socialiste Olivier Faure. Sébastien Lecornu espère encore convaincre le PS de ne pas le censurer à l'Assemblée. Le Premier ministre qui envisage de diminuer certains impôts en faveur du travail. Il se dit ouvert au débat sur la justice fiscale. Propos tenus aujourd'hui à Matignon lors d'une rencontre avec ses alliés du socle commun. Le procès de Rachida Dati dans l'affaire Carlos Ghosn aura bien lieu après les élections municipales de mars prochain, bien après. Dans un an, Carlos Ghosn, l'ancien PDG de l'alliance Renault-Nissan, celle qui était alors députée européenne, est soupçonnée d'avoir touché 900 000 euros du constructeur pour des actions de lobbying au Parlement. Aujourd'hui ministre démissionnaire de la Culture, Rachida Dati brigue la mairie de Paris. Elle échappe donc à un procès en pleine campagne municipale. La date a été fixée cet après-midi, au terme d'une audience quelque peu agitée, Yannick Falt.
C'est dans un an que le procès est programmé sur 6 demi-journées entre le 16 et le 28 septembre 2026. Un calendrier qui a donné lieu à quelques passes d'armes cet après-midi lors d'une audience dite de fixation, alors que des dates beaucoup plus proches avaient initialement été envisagées, novembre avant les municipales de mars prochain, le mois de mai ensuite. Mais les avocats de Rachida Dati ont expliqué ne pas être disponibles en raison d'autres procès déjà prévus aux assises. Notamment, la défense de la ministre démissionnaire annonce par ailleurs de nouveaux recours avant et pendant le procès. On en est déjà à 45, fustige l'un des avocats de Renault, partie civile dans ce dossier. L'objectif est de retarder la procédure. C'est une gigantesque plaisanterie, s'emporte le parquet national financier. Mais les dates du procès sont donc désormais connues, dans un an, avec un calendrier politico-judiciaire particulièrement chargé. Procès en appel pour le RN en janvier-février, procès en appel à venir de Nicolas Sarkozy dans le dossier libyen. En attendant, le procès en appel du MoDem de François Bayrou, aucune date pour l'instant. Plus d'un an et demi après l'appel du parquet.
À noter que Carlos Ghosn est également renvoyé en correctionnel dans cette affaire, mais l'ancien patron de Renault-Nissan est en fuite au Liban sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Toujours au chapitre de l'actualité politico-judiciaire, l'étau se resserre sur Gaël Perdriot. Au procès du chantage à la sextape, la procureure du tribunal correctionnel de Lyon a requis 3 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité à l'encontre du maire de Saint-Étienne. Gaël Perdriot a accusé d'avoir fait chanter son premier adjoint à l'aide d'une vidéo intime. L'élu stéphanois nie les faits, il compte sur ce procès pour laver son honneur, avant éventuellement de briguer un nouveau mandat en mars prochain. Ce soir, Christophe Vincent, l'affaire est mal engagée pour Gaël Perdriot, d'autant plus que la procureure a requis l'exécution immédiate des peines demandées.
Gaël Perdriot était le décideur, celui qui avait la main sur la mallette nucléaire. Il avait le pouvoir que tout s'arrête et il ne l'a jamais fait. La procureure décrit des méthodes abjectes, une organisation mafieuse. Quelle image de la politique avez-vous donné ? Interroge-t-elle. Audrey Kay revient sur le piège, une chambre d'hôtel, un escorte gay, une caméra cachée pour faire chanter un homme marié, catholique. S'il avait des doutes sur sa sexualité, poursuit la magistrate, il n'avait pas besoin qu'on l'éclaire de la sorte. C'est sa vie privée, ils ont sali une famille tout entière. Gaël Perdriot doit être reconnu coupable d'association de malfaiteurs, dit la procureure. Ses collaborateurs ont agi en son nom, il a laissé faire, cela suffit car il avait autorité. Elle parle de faits d'une extrême gravité, d'un maire qui est le seul à nier l'évidence et elle réclame une peine de 3 ans ferme à purger en prison, assortie de 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate.
Christophe Vincent depuis le tribunal correctionnel de Lyon. C'est un fleur français dans la recherche médicale, mais il va peut-être disparaître dans les tout prochains jours. La société Carmat, spécialisée dans la fabrication de cœurs artificiels, est en redressement judiciaire depuis juillet dernier. Demain, le tribunal des affaires économiques de Versailles doit se prononcer sur la seule offre de reprise déposée pour sauver l'entreprise. Seulement voilà, on apprend aujourd'hui que le repreneur en question n'a visiblement pas les moyens de racheter Carmat, Annabelle Grolier.
C'était la seule offre de reprise qui semblait crédible. Elle avait été déposée par Pierre Bastide, l'actuel président du conseil d'administration de Carmat, ancien patron de Schneider, Valeo et Thomson, arrivé à la tête du conseil d'administration en juin 2024 et déjà détenteur de 17% de l'entreprise. Il proposait 1 million d'euros pour reprendre ce fabricant français de cœurs artificiels par le biais de sa société familiale belge. Mais l'offre du family office de Pierre Bastide n'a pas été confirmée faute de financement sécurisé nécessaire, apprend-on de la direction même de Carmat. C'est donc tous les espoirs des 138 salariés et de l'innovation française qui s'effondrent, car à ce stade, il est donc devenu extrêmement probable que cette offre deviendra caduque demain et que le tribunal soit amené, à très brève échéance, à prononcer la liquidation judiciaire de la société dont les activités alors cesseront, annonce le groupe dans son communiqué cet après-midi. Rappelons qu'en juin dernier, avant sa mise en redressement judiciaire, Carmat cherchait désespérément à réunir 3,5 millions pour tenir sa trésorerie. Compte tenu du passif, il est hautement probable que nos actionnaires subissent la perte intégrale de leur investissement, n'hésite plus à dire la direction. Du côté des patients, rappelons que 120 patients ont déjà été transplantés. La direction de Carmat assure qu'elle fera tout son possible pour assurer le suivi de leur équipement.
Explication signée Annabelle Grolier. On termine ce journal avec la fin programmée d'une belle aventure ferroviaire, le retour des trains de nuit Paris-Vienne et Paris-Berlin. Eh bien, les deux lignes relancées en grande pompe en 2021 et 2023 vont être supprimées. Les derniers trains circuleront le 14 décembre prochain. La SNCF et la compagnie autrichienne ÖBB l'ont annoncé aujourd'hui. Elles exploitent les lignes avec la Deutsche Bahn allemande. Une décision motivée par l'arrêt d'une subvention de 10 millions d'euros versée par l'État français. Subvention qui serait indispensable à la poursuite de l'expérience. Sébastien Baer, vous aviez assisté il y a moins de 2 ans à l'inauguration de ce nouveau train de nuit Paris-Berlin.
La naissance de la ligne avait été célébrée en grande pompe à la gare centrale de Berlin fin 2023 en présence des ministres des Transports français et allemands. Moins de 2 ans plus tard, l'enterrement est beaucoup plus discret. Cette liaison de nuit qui permet de rallier Paris et Berlin en 14 heures environ rencontre pourtant un certain succès. Malgré les retards et la suspension de la ligne pendant plusieurs mois pour travaux, les trains affichent un taux d'occupation de plus de 60%. Mais pour les compagnies, l'exploitation du train de nuit coûte beaucoup plus cher que celle d'une ligne classique. Moins de billets vendus car la capacité des trains couchettes est plus limitée, coût de maintenance plus élevé. Il faut aussi mobiliser davantage de personnel pour assurer le changement d'équipage et de locomotive à la frontière. Privée des 10 millions d'euros de subventions de l'État français, la ligne de nuit n'est donc plus viable et les dizaines de milliers de signatures de la pétition lancée par le collectif Oui au train de nuit n'y pourront rien changer. Le collectif reproche aux opérateurs de ne pas avoir respecté leur engagement. Le train circulait 3 nuits par semaine alors que les compagnies avaient promis une desserte quotidienne. semaine. Les habitués devront se tourner vers la liaison de jour, 8 heures de trajet entre Paris et Berlin, avec la ligne directe inaugurée en fin d'année dernière.
Sébastien Baer, correspondant de France Culture en Allemagne. Le temps demain calme sur tout le pays avec le maintien de conditions anticycloniques. Les brumes et brouillards seront nombreux le matin sur plusieurs régions, comme la Bretagne, la Normandie et le Lyonnais. Ailleurs, le soleil dominera toute la journée. Les températures minimales iront de 7 à 17 degrés du nord à la Méditerranée. L'après-midi, le thermomètre remonte entre 17 et 21 degrés au nord, de 19 à 26 au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun, à la technique Nicolas Leroulet.